5h sur Europe 1.
Ça va être des rhumes simples, ça va être parfois des formes qui seront un petit peu plus symptomatiques chez les personnes un peu plus âgées ou chez certaines personnes immunodéprimées.
Que va devenir le Covid-19 ? Disparaître à terme ou devenir une sorte de rhume ou de petite grippe qui reviendrait chaque année ? Les premières pistes des scientifiques. Les résultats de Parcoursup pour les futurs bacheliers et la question du choix ou de la patience quand on est très loin sur les listes d'attente pour une fac ou une école. Et puis les grands portiques pleins de capteurs sont toujours là sur les autoroutes. L'écotaxe avait été abandonnée par François Hollande. Elle revient en Alsace.
À suivre, les sports, notre pressing du matin. Et puis nous serons à Rungis, chez notre volailler, pour les doigts dans l'assiette.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les jours passent et pour l'instant, les données sanitaires restent bonnes. Le nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 est passé hier sous les 18 000 et 3 200 personnes sont en soins critiques. L'espoir d'un retour à la vie normale refait surface et on va s'autoriser cette question, Anne Le Gall. Allons-nous vraiment vers une disparition totale de ce coronavirus dans les mois qui viennent ?
Ça risque de vous décevoir, mais pour la grande majorité des experts, clairement non. La revue Nature a sondé 119 virologues et épidémiologistes internationaux et pour 89% d'entre eux, cette éradication est impossible, contrairement à ce qui a pu se passer pour la variole, mais ce n'est pas le même type de virus. Et il va donc falloir continuer à vivre avec ce SARS-CoV-2, confirme le professeur Bruno Lina, virologue et membre du conseil scientifique. Mais, et là c'est une bonne nouvelle, ce virus devrait changer de profil et se manifester sous des formes plus banales.
Ça va être des rhumes simples, ça va être parfois des formes qui seront un petit peu plus symptomatiques chez les personnes un peu plus âgées qui ont une immunité un peu défaillante ou chez certaines personnes immunodéprimées. Mais on ne retrouvera pas des vagues épidémiques comme celles que l'on a vues pour cette période pandémique. C'est vraiment une deuxième phase. Ce que l'on ne sait pas, c'est combien de temps ça va prendre. Si ça se trouve, c'est quelque chose qui peut être extrêmement rapide. Ou alors prendre un petit peu plus de temps, 2 à 3 ans, avec un glissement progressif vers des formes moins graves.
Bruno Lina, virologue et membre du conseil scientifique à votre micro, Anne Le Gall. Merci Anne. On retient donc pas de disparition du virus, mais l'espoir qu'il soit de moins en moins sévère.
Alors pour le moment, on continue de traquer les contaminations par les tests, bien sûr. Et par des chiens renifleurs aussi.
Oui, assez vite hein, dans cette crise, l'idée avait été lancée d'utiliser les chiens pour détecter le Covid. C'est enfin en place. À Marseille, les marins-pompiers ont formé 2 de leurs chiens. Ils sont aujourd'hui utilisés à l'aéroport Marseille-Provence. Stéphane Frangy.
Une présence inhabituelle dans la file d'attente de la police aux frontières, un berger hollandais, Inslag, au pied de son maître. Pour les marins-pompiers, il s'agit d'abord de rassurer les passagers qui sont intrigués.
Juste votre attention, n'ayez pas peur, il va vous renifler un petit peu. Vous inquiétez pas, il cherche des gens qui seraient contaminés au Covid, et uniquement ça.
Puis Inslag, au passage de chacun, renifle les mains, les chaussures ou encore les bagages. Sous l'œil du premier maître, Stéphane, attentif à la moindre réaction.
Alors, elle ferait certainement un petit aboiement de ce genre-là, si elle veut à détecter le Covid sur une personne. Donc il faut que j'interprète un petit peu, voir les changements de comportement du chien.
L'utilisation de ces chiens vise à la fois à renforcer et à simplifier aussi à terme les dispositifs de contrôle déjà présents auprès des passagers, selon le premier maître des marins-pompiers, Eric.
On peut tout à fait avoir un test négatif 48 heures avant et être positif le lendemain. L'avantage du chien, c'est la rapidité d'exécution, c'est-à-dire qu'il va pouvoir remonter une file de 40 personnes en 3 minutes.
Et le taux de sensibilité de ces chiens à la détection du Covid serait de 92% selon les marins-pompiers. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.
Plus stressant encore que les résultats du bac, il y a Parcoursup, la plateforme où se font les inscriptions dans l'enseignement supérieur. Les premières réponses sont tombées hier soir pour les élèves de terminale.
Virginie Salmen, les candidats ont maintenant jusqu'à lundi pour accepter, refuser ou mettre en attente ces premières propositions d'admission.
Oui, Alexia fait partie des 90% d'élèves de terminale à n'avoir aucune réponse positive à ce stade. Elle a demandé des facs de droit. Cette bonne élève, 14 de moyenne, espérait décrocher Assas à Paris, mais elle est loin sur la liste d'attente.
Je suis 5059e dans le classement et la dernière personne qui a été prise l'année dernière, elle était 3293e. Je pense que ça va être très compliqué.
Mais en parcourant ses autres vœux, la bonne surprise.
Ah ! Là, c'est plutôt bien. L'Université de Paris, en licence de droit, je suis 912e dans la liste d'attente. Et la dernière personne à avoir été prise, elle était 4200e. Donc peut-être que j'aurai ça, je ne sais pas.
Son amie Aurore, elle, décroche 3 réponses positives du premier coup pour des études artistiques.
Oui, j'ai été acceptée à 3 endroits. à l'ESRA Paris et Nice, donc c'est une école de cinéma. Et j'ai été aussi acceptée dans une licence histoire à l'Institut catholique de Paris. Très contente d'être acceptée dans une école de cinéma, c'est ce que je veux faire depuis très longtemps.
Aurore ne va pas cliquer tout de suite sur le bouton accepter, elle se donne le week-end pour décider avec ses parents laquelle de ces trois formations elle va choisir définitivement.
Virginie Salmen.
Il est 5h06 sur Europe 1. Je suis venu reconnaître notre responsabilité. La déclaration solennelle d'Emmanuel Macron hier au Rwanda, 27 ans après le génocide des Tutsis.
Le président français a choisi les mots de son discours avec précaution, au risque de décevoir puisqu'il n'a pas demandé le pardon que certaines associations attendaient, comme celle que préside Egide Nkuranga.
C'est son choix. Il a vraiment évité le mot exact dans son discours. On attendait ce qu'il dise clairement, qu'il présente les excuses au nom de l'État français. Il ne l'a pas fait, même pour le pardon, il ne l'a pas fait. Donc c'est ça ce qu'on remarque. Mais dans son discours, ce que j'ai aimé, c'est que ce que nous demandions avant, c'est ce qui concerne la justice. Je pense que c'était très important de mentionner ça, qu'ils ne vont pas tolérer les présumés génocidaires qui sont à liberté en France. Donc s'ils peuvent les traduire en justice, c'est quelque chose de très important qu'on attendait dans le discours d'Emmanuel Macron.
Egide Nkuranga au micro européen de Jean-Rémy Baudot.
Revenons en France avec ces grands portiques que vous croisez depuis des années maintenant sur les autoroutes, ces portiques bardés de capteurs et qui n'ont jamais été mis en service.
Les portiques écotaxes, ils avaient été, disons, un peu malmenés, voire détruits, incendiés par les bonnets rouges bien avant les gilets jaunes. C'était un autre coup de colère contre la fiscalité écologique. François Hollande avait abandonné l'écotaxe, mais l'Alsace va avoir le droit d'en instaurer une locale pour faire payer les camions qui traversent la région. Arthur Mbaché.
Imaginez le Rhin, d'un côté l'autoroute allemande avec taxe poids lourd, de l'autre la française, gratuite, donc surchargée. C'est cette situation spécifique à l'Alsace qui explique la résurrection version locale de l'écotaxe. La chose sera prochainement gérée par la collectivité européenne d'Alsace, dirigée par Frédéric Bierry, qui compte bien donner enfin une raison d'être à ces fameux portiques qui ne servent à rien depuis 8 ans.
Ce qui nous apparaît aujourd'hui le plus efficace, c'est effectivement que les transporteurs sont obligés de s'équiper d'un boîtier qui fait que quand ils passent sous les portiques, ils sont enregistrés et à ce moment-là, du coup, se génère derrière une taxe.
Les transporteurs qui sont représentés en Alsace par Michel Chalot, qui n'est pas ravi mais qui n'a pas, pour l'instant, sorti son bonnet rouge.
Non, pas encore, on n'en est pas là. On ne veut pas de révolution. Pour le moment, on rentre dans une phase qui est une phase de négo. Après ça, on verra. Hein. Moi, je n'ai pas dit que ça ne peut pas se traduire en colère.
La logique voudrait que le montant de la taxe soit à peu près comparable à ce qui se fait en Allemagne, une petite quarantaine d'euros pour traverser l'Alsace au volant d'un 40 tonnes. Strasbourg, Arthur Nbaché, Europe 1.
On a beaucoup parlé de Napoléon il y a 3 semaines à l'occasion des 200 ans de sa mort. Voilà que démarre aujourd'hui une exposition spectaculaire à la Grande Halle de la Villette. Tableaux, sculptures, mobilier, costumes, mais aussi films qui nous font vivre l'épopée de l'empereur. Diane Chénouda.
Toute la vie de Napoléon nous est racontée, de sa jeunesse à sa mort, le combattant traversant les Alpes sur son cheval, célèbre tableau de David, et la reproduction en très grand format du sacre de l'empereur, et la splendide berline aussi de son mariage, prêtée par le château de Versailles. Frédéric Lacaille, conservateur à Versailles.
Napoléon avait voulu une cérémonie extrêmement fastueuse. Il voulait que le mariage dépasse les cérémonies du sacre. Et il faut imaginer toute la famille impériale, les grands dignitaires, circulant dans Paris, dans ses voitures entièrement dorées à la feuille. Un jour de grand soleil, comme ça, le coup d'œil devait être extraordinaire.
Et la violence de la guerre, avec la charge de cavalerie, extraite du film Le colonel Chabert. Jean-Baptiste Claes du Louvre, chargé de la médiation.
L'intention de départ était vraiment d'avoir une expo pédagogique accessible à tous les publics et pensée spécifiquement pour des gens qui ne connaissent rien à Napoléon.
Une mise en scène spectaculaire qui n'oublie pas non plus les faces sombres de Napoléon, le rétablissement de l'esclavage et sa mort dans la solitude de Sainte-Hélène face à l'océan.
Napoléon, expo à la Grande Halle de la Villette à Paris jusqu'au 19 décembre. Il faut réserver une place.
Voilà, c'était le journal de François Geffrier sur Europe 1. Il est 5h10. Bonjour Julien Froment.
Bonjour.
Votre journal des sports est à la une le foot, la Ligue 1 s'éloigne un peu plus pour Toulouse.
Hein. Effectivement, le TFC recevait le FC Nantes hier au Stadium. Et le terrain n'a clairement pas été un avantage pour les Toulousains. Défaite 2-1 dans ce match de barrage aller. Il faudra un exploit dimanche prochain au stade de la Beaujoire de Nantes. En attendant, difficile de digérer ce résultat, l'entraîneur Patrice Garande.
On n'a pas fait le match qu'on voulait faire. Et surtout, on n'a pas été au niveau qui est le nôtre habituellement. On a été très en dessous, avec beaucoup, beaucoup de déchets techniques. Globalement, notre équipe a été en dessous, donc la déception, elle est là. Les raisons, j'en sais rien. Les joueurs étaient assez sereins, il n'y avait pas de signe de nervosité. Ça se joue sur deux matchs. Certes, on a perdu 2-1, mais on a vu des choses dans le football et... Il peut encore se passer des choses.
Patrice Garand au micro de Patrick Anselmetti.
Le foot encore et ça bouge sur les bancs de touche européens.
Oui, après l'Italien Antonio Conte à l'Inter Milan, c'est Zinedine Zidane qui est sur le marché. Le Français n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. Annonce faite hier, plusieurs prétendants pour le remplacer, dont l'actuel coach du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, arrivé seulement depuis 6 mois à Paris. Tottenham, son ex-club, souhaiterait également le récupérer.
On verra ce que la presse espagnole dit de ce départ de Zidane tout à l'heure dans la revue de presse. International sera à 6h50. Le cyclisme avec le Tour d'Italie et à 2 étapes de la fin, un Français pourrait finir meilleur grimpeur.
Oui, cela n'était plus arrivé depuis Laurent Fignon en 1984. C'est dire la portée de l'exploit. Si il parvient à conserver d'ici dimanche le maillot bleu de meilleur grimpeur, on parle bien évidemment de Geoffrey Bouchard. Il sait évidemment que les 48 heures qui vont venir seront décisives pour ramener à Milan ce fameux maillot là où a lieu la dernière étape.
De belles étapes à faire. Il y a peut-être un remaniement aussi au niveau du classement général. Voilà, il y a des possibilités aussi pour les échapper, de partir de loin. Et c'est comme ça que je dois passer si je veux espérer un bon résultat sur une étape et engranger des points.
Geoffrey Bouchard.
Je suis super motivé.
Je lui coupe la chic, pardon. Geoffrey Bouchard d'AG2R, la mondiale au micro d'Axel May. Il aura du boulot aujourd'hui avec l'avant-dernière étape, donc 166 km entre Abbiate Grasso et Alpe d'Himera. Avec comme ultime ascension une pente régulière de 10% sur 10 km. On lui souhaite bien du courage.
Enfin, on en parlait hier en voile. François Gabart a retrouvé un sponsor.
En effet, le groupe de cosmétiques français Cresque qui a racheté le futur bateau dont la mise à l'eau est prévue le 22 juillet. Le trimaran naviguera sous ses nouvelles couleurs et sous le nom SVR Lazartigue en novembre prochain au départ de la Transat Jacques Vabre au Havre, avec à son bord bien sûr un François Gabart aux anges.
C'est un grand soulagement et je suis super excité en fait de se lancer à nouveau dans un projet comme celui-là, d'avoir ce focus justement sur la Transat hein, parce que elle arrive très vite, et de pouvoir me remettre dans la tête d'un sportif avec ce compte à rebours jusqu'à la course. C'est hyper excitant et c'est un challenge.
François Gavard qui répondait à Corinne Boulou.
À tout à l'heure, merci à vous Julien Froment. Et à 5h13, on va découvrir le pari gagnant du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Sébastien, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et mon pari gagnant sera le 607, El Greco Bello. Toujours très performant lorsqu'il est déféré des 4 pieds, c'est dans cette configuration qu'il évoluera cet après-midi. Sa dernière sortie le 8 mai sur l'hippodrome du Mans où il était ferré avait surtout pour mission de peaufiner sa condition physique en vue de cet objectif. Pieds nus cette fois, il ne devrait pas décevoir et justifier ainsi la confiance sans réserve affichée par son entourage. Notez bien, pour cet après-midi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, réunion 1 dans la 6e course, le numéro 7. El Greco Bello.
C'est noté Thierry Léger et vous restez dans le coin, on vous retrouve pour les pronostics du Quintet tout à l'heure dans une vingtaine de minutes.
Europe 1.
Il est quasiment 5h15 sur Europe 1. Bon réveil, merci de nous rejoindre. Le 5-7 continue, on va lire la presse tranquillement avec toute l'équipe. Qu'est-ce que vous avez lu ce matin, Amblin ?
Il existe à nouveau des endroits sur Terre, pas loin, où sécurité rime avec liberté, enfin sur Terre, pas vraiment. Transat, piscine, casino, cours de salsa, pas de Covid au beau milieu de la Méditerranée.
Ah.
On part en croisière ?
Ah, les retours des croisières.
Ah,
bon,
ça c'est une bonne nouvelle.
Nous racontez ça dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
5h15, le pass sanitaire définitivement validé après l'adoption hier soir par le Sénat du projet de loi de sortie progressive de l'état d'urgence sanitaire. Messagerie, vidéoconférence ou encore partage de documents. Attention à ces outils de grands groupes américains qui sont utilisés par les facs et les grandes écoles françaises. La CNIL, Commission informatique et liberté, suggère de chercher des alternatives. Elle alerte face à un risque d'accès illégal aux données par les autorités américaines. Et puis le Conseil des droits de l'homme de l'ONU lance une enquête internationale sur les atteintes aux droits humains commises dans les territoires palestiniens occupés et en Israël. Décision saluée par le Hamas et dénoncée comme honteuse par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Europe 1.
Allez, c'est l'heure du pressing. Comme chaque matin, nous lisons les journaux avec Ombline Roche et Martin Lange. On commence par jeter un œil aux unes. Et vos journaux continuent de raconter le déconfinement. On se remet doucement au sport, par exemple. Tiens, c'est le titre du Sud-Ouest. Les enfants, notamment, ont pu reprendre leurs activités. Pour les adultes, il faut attendre le 9 juin pour faire du sport en intérieur. Le télétravail, stop ou encore, c'est le dossier à la une de la Dépêche du Midi. Et puis les vacances, ça y est, les vacances qui arrivent. Et les régions qui rivalisent. La course aux touristes est lancée. C'est le titre des dernières nouvelles d'Alsace. Destination France se réjouit le Dauphiné libéré. 80% des Français entendent passer leurs vacances à l'intérieur de nos frontières. Dans l'actualité, il y a aussi ces tensions entre police et justice. Les raisons de la discorde, c'est la une du Figaro. Libération nous raconte l'envers d'un virage vert, celui de Total. Et puis le Parisien, aujourd'hui en France, publie un dossier sur le choc des nouvelles télés. La guerre entre géants du numérique, Netflix, Disney+, Amazon. Amazon qui se renforce en rachetant la MGM. Voici les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Et on parlait des vacances qui arrivent. Ombline, là on y est.
Oui, on part en croisière dans Paris Match cette semaine. On embarque à bord du MSC Seaside qui a largué les amarres à Syracuse en Sicile. Alors si je vous dis discothèque, vous savez cet endroit où on peut danser. Si je vous dis cours de rumba, cet endroit où on peut danser. Spectacle d'acrobates, casino, restaurant et pas de couvre-feu. La vie qui reprend son cours au beau milieu de la Méditerranée. Il faut quand même rappeler que les compagnies de croisière sont à l'arrêt depuis un an et la perte est estimée à 40 milliards d'euros. Donc cette brise marine qu'on commence à sentir sur le visage fait du bien. Sur le pont, on ne prononce...
Fais attention au cluster quand même.
Alors, écoutez bien ce qui vient. On parle pas de Covid, on parle pas du Diamond Princess. Hein. Rappelez-vous ce paquebot transformé en cluster géant. Mais cette liberté, effectivement, a un prix. On n'a rien sans rien. Un protocole sanitaire ultra renforcé. Test avant embarquement et pendant tout le voyage. Prise de température quotidienne. Et cette petite carte passager qui ne vous quitte plus et qui vous permet de vous pister. Vos faits et gestes sont enregistrés grâce à un code barre. Dans quel restaurant vous êtes allé déjeuner? À quelle table vous vous êtes installé? Vous devez biper. Hein. Vous avez joué au bowling ou vous avez profité d'une soirée au théâtre? S'il y avait de la place, hein, car une jauge doit être respectée dans tous les lieux clos, et il y en a sur un paquebot. Pas d'escale, hein. Vous êtes sur les flots, vous y restez, impossible de débarquer. Aucun contact avec l'extérieur n'est toléré. Il faut se contenter d'arpenter les 25 étages, du paquebot.
Donc Syracuse en Sicile, c'est le point de départ, mais après, il n'y a pas d'escale.
Exactement, c'est point à point. Quant à l'équipe médicale, elle a été renforcée et le bateau est passé à la Javel, ou même genre toute la journée. Liberté rime aussi avec désinfection. La compagnie MSC a longtemps travaillé avec des scientifiques pour pouvoir reprendre son activité. Le protocole mis en place va être imposé à toutes les autres compagnies. Alors en France, rendez-vous sur le port de Marseille le 20 juin pour la réouverture du terminal de croisière. On reprend le large dans Paris Match.
Les tests tout au long du... On a deux doigts de la croisière s'amuse. Les tests pendant tout le trajet.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs, ça revient, il faut y retourner régulièrement.
Ouais, on fait des tests tout le long du trajet, tout le long de la croisière.
On a rien, ça se mérite.
C'est comme ça.
Ça se mérite, mais les croisières sont reparties. Tiens, autre sujet, et là on est un peu plus isolé, on est un peu moins confiné, c'est la ruée vers les campagnes. On a beaucoup raconté ces derniers mois, la ruée sur les maisons, au vert. Eh bien, acheter dans un lieu d'exception, c'est possible, nous dit aujourd'hui en France. C'est le site Meilleurs Agents qui a sélectionné 10 des plus beaux villages de France où on peut s'offrir une résidence secondaire pour 150 000 euros. Exemple, à Noyers-sur-Serein, qui porte bien son nom dans l'Yonne. On y retrouve un heureux acheteur, Marc, parisien, sexagénaire. Il vient d'acheter une bâtisse de 160 mètres carrés pour 140 000 euros.
Et oui.
Pour vivre simplement, dit-il, et profiter d'une vie au village. On en a ressenti le besoin après le confinement. Et à 2 heures de Paris, eh bien, on profite chaque week-end de cette nouvelle demeure au cœur d'un village médiéval avec ses maisons à colombages. Alors attention à ce prix-là, on ne parle pas d'une villa luxueuse dernière génération, on est d'accord?
Non, on se contentera d'une fermette.
Voilà.
Hein.
Il faut tout retaper, il y a 6 mois de travaux. Mais la maison est en pierre, elle est pleine de charme. En tout cas, c'est une tendance lourde. La recherche de résidence secondaire a augmenté de 30%, mais dans ce village de Lyon, les prix ont bondi de 20% en 6 mois. Meilleurs Agents a donc recensé 10 villages parmi les plus beaux, les villages vraiment classés, où on trouve une maison d'au moins 75 mètres carrés pour 150 000 euros. Alors on peut citer le Bec et Loin, cité normande dans l'Eure. Là-bas, on trouve 85 mètres carrés pour 150 000 euros. Les Nantais trouveront peut-être leur bonheur sur les bords de Loire, à Montsoreau ou en Vendée, à Vouvan, et les Toulousains dans l'Aveyron, à Estaing, à l'entrée des gorges du Lot. Une maison de ville, 150 mètres carrés, c'est vendu 145 000 euros. Il y a d'autres exemples dans le Gers, en Haute-Loire, en Côte d'Or. Vous trouverez la liste de ces villages dans Aujourd'hui en France et sur le site de Meilleurs Agents qui a fait ce petit recensement. Le Aujourd'hui en France qui conclut donc qu'acheter une maison de campagne est un rêve accessible. Ça vous donne envie, Omblin,
oui,
d'investir dans une petite fermette, comme vous dites ?
Un petit peu quand même.
Martin, oui,
pour prendre l'air.
Un petit peu. On termine avec vous, Martin. C'est d'ailleurs la chanceuse dont vous nous parlez. Elle a le moyen de s'acheter quelques maisons de campagne pour le coup.
Exactement, Sébastien. Ce matin, je reviens sur ces initiatives aux États-Unis pour inciter les Américains à se faire vacciner. Alors, vous en souvenez peut-être, je vous avais parlé de cette entreprise qui offre des donuts à ceux qui vont se faire piquer. Et ben, l'État de l'Ohio est allé encore plus loin en organisant une grande loterie de la vaccination. $1 million à la clé, hein, mais une condition pour y participer, bien sûr, avoir reçu au moins une dose. L'initiative s'appelle Vax Million. Elle a été lancée début mai par le gouverneur de l'Ohio, Mike DeVine. Il a également lancé un deuxième tirage pour les jeunes. Cette fois, eux pouvaient gagner une bourse d'études. Et depuis hier, on connaît le nom de la grande gagnante. Elle s'appelle Abigail Bukenske, pardon. C'est elle, hein, qui remporte donc le $1 million. Et visiblement, ça ne va pas changer ses plans. Écoutez.
Je suis venue de Cincinnati à Cleveland pour voir une voiture d'occasion. Et je pense que j'ai toujours l'intention d'acheter une voiture d'occasion. Et c'est à peu près tout ce dont je suis certaine.
$1 million. $1 million juste parce qu'elle est allée se faire vacciner.
Exactement. Et qu'elle a joué à la loterie quand même. Elle a acheté un ticket de loto.
Voilà. Oui, bon. Au-delà de ces gagnants, est-ce que l'initiative fonctionne ? Les habitants de l'Ohio se sont rués sur le vaccin avec cet encouragement ?
Ouais, ça a marché. Hein. Le nombre de personnes de plus de 16 ans ayant reçu une première dose a augmenté 33%, un tiers, hein, la semaine après l'annonce de la loterie. Près de 3 millions de personnes se sont inscrites à cette loterie. Une belle réussite donc, mais l'Ohio reste à la traîne. Hein. Seuls 39% de sa population est entièrement vaccinée, 45% pour la première dose. Hein. C'est moins que la moyenne nationale, puisque la Maison-Blanche a annoncé cette semaine que la moitié des adultes américains étaient désormais vaccinés contre le Covid. Mais cette idée de loterie fait son chemin. D'autres États américains comme l'Oregon, le Maryland, New York ou encore le Colorado pourraient lancer la leur. Son vaccin contre le Covid lui fait gagner $1 million, c'est à lire sur le Huffington Post.
On n'est pas encore là en France, hein, mais
non.
Il va falloir aller chercher les derniers réticents. Alors peut-être que...
Moi, je veux bien me faire vacciner, hein, pour $1 million, il n'y a aucun problème.
Merci à tous les deux, c'était le pressing du jour, 5h24.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Et direction le marché de Rungis pour les doigts dans l'assiette ce matin en direct. Bonjour Gino Catena.
Bonjour Sébastien.
Vous êtes notre volailler à Rungis. Comment ça va ce vendredi matin ?
Ça va pas mal. On a un petit ressenti, un petit regain d'activité avec l'ouverture de quelques restaurants. Bon, évidemment, c'est pas comme on pourrait l'imaginer parce que des terrasses, ça suffit pas à remplir des restaurants complets. Mais bon, il y a quand même un petit peu d'énergie, un peu de demande, un peu de volonté à vouloir bouger, sortir du lambda. Quoi. On voit bien que nos restaurateurs ont hâte d'avoir de l'activité parce que on peut pas rester comme ça sans rien faire.
Et oui, ça y est. Donc puis, depuis mercredi, les terrasses ont rouvert. Vous avez tout de suite vu arriver des commandes ?
Oui, mais bon, quand vous avez un client qui vous achète, on va dire, une quantité de 100, aujourd'hui, ils prennent une quantité qui fait 20-25%. Donc, alors nous, c'est toujours du plus par rapport à une demande, mais c'est pas non plus l'euphorie, quoi. Hein, clairement, il manque quand même énormément d'activité.
Il va falloir attendre le 9 juin et peut-être l'ouverture de l'intérieur pour que ça revienne un petit peu mieux.
Voilà. Là, ça sera la fête, ça sera plus pareil. Là, on va enfin sortir la tête de l'eau. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué malgré tout.
Ouais, encore une dizaine de jours à patienter. Qu'est-ce qui marche bien en ce moment ? Vous avez des produits un peu de saison qui sont sympas ?
On a démarré tout ce qui est produits de brochettes, des brochettes de volaille, des brochettes de tout aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de produits qui sont transformés et qui sont très agréables. Hein. Les grillades, on a eu un petit coup de soleil hier, c'est la fête. Hein. On oublie tout le passé quand on voit ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des brochettes, on les fait griller, on essaie de se retrouver en famille. Et puis, bien évidemment, en famille, hein. On n'a pas dit de faire des rassemblements, c'est interdit, bien évidemment. Mais bon, on sent tout de suite que ça donne un petit peu peu un côté, un bel aspect positif et puis cette envie de se retrouver malgré tout, hein, c'est, ça fait du bien et c'est ce que tout le monde dit, hein. On a quand même besoin des uns des autres, hein, de se retrouver, c'est très important.
Voilà, et puis vous, vous avez besoin de retrouver une activité avec les restaurants qui rouvrent, le soleil qui revient partout, voilà. Laurent Cabrol va nous le redire dans quelques secondes, le week-end va être estival, c'est vrai que les brochettes et les grillades là, sur le barbecue ce week-end, c'est parfait.
Ça va dépoter et puis vivement les apéros, quoi. Voilà. Ça manque un peu. Hein.
Merci à vous et bon courage, Dino Catena. À bientôt depuis Rungis, les doigts dans l'assiette chaque matin sur Europe 1. Bon réveil, il est 5h27.
Un vent, un grand vent nouveau souffle sur le pays très chaudement dans un bain. Un bain de foule et dévot, à moitié épaillis. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Amour. Sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Le monde nouveau de Feu Chatterton sur Europe 1, il est 5h29. Laurent Cabrol, c'est à vous pour la météo de ce vendredi.
Bah oui, c'est un temps d'été. Alors il se conjugue souvent avec des nuages parce que ben, la tendance orageuse se manifeste. Alors nous, des nuages, nous en aurons cet après-midi. C'est un voile en fait, un voile sur le Poitou-Charentes, l'Aquitaine, le Béarn. Et puis un autre voile, ou en tout cas des passages nuageux sur le nord, la Picardie, la Champagne-Ardenne, la région parisienne. Mais enfin, ces nuages sont totalement inoffensifs, bien sûr. Ce sont simplement des ondes, l'évaporation un peu accentuée qui se déroulera dans ces régions. Mais partout ailleurs, enfin même partout ailleurs et partout en France, ce sera un temps d'été avec une journée très lumineuse, donc aucune inquiétude. Les températures maximales sont en hausse, bien sûr. 19 degrés à Nancy, 20 degrés à Nice, 22 à Paris. Si oui, 22 à Paris, à Évreux, à Besançon, à Quimper, à Lons-le-Saunier, 23 à Bourges, 24 à Marseille, 25 du côté de Bordeaux, de Lyon, de Clermont-Ferrand, de Mâcon, de Limoges. Et nous atteindrons même 27 degrés à Brive-la-Gaillarde et 28 à Toulouse.
Bon, voilà, bon, bah, ça se confirme pour le barbecue dont on parlait tout à l'heure. Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Allez, tout de suite un nouveau journal sur Europe 1. Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h30.
C'est très difficile de refuser aux gens qui ont été privés de terrasse pendant 7 mois de savoir qu'on a la place et de ne pas les installer.
C'est un vent de liberté qui a de quoi faire paniquer plus d'un soignant. Depuis 10 jours, les Français sont au rendez-vous des terrasses et la jauge de 50% n'a pas été appliquée bien longtemps, vous l'entendrez. Dans ce journal également, cette information Europe 1, la garantie de l'État pour louer un logement sera étendue dès la semaine prochaine. Au Congo, plusieurs dizaines de milliers de personnes fuient sous la menace d'un volcan. Et puis en football, Zidane quitte le Real Madrid. Une page se tourne pour les supporters.
Après le journal, on s'arrête sur ce qui est une petite révolution dans la capitale. Paris va disposer au mois de septembre de sa police municipale. Mais une police non armée, cela fait débat. Sera-t-elle vraiment utile? On en parle avec mon premier invité, le spécialiste des questions de sécurité, Mathieu Zagrodzki.
Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Cela fait donc 10 jours que l'on a retrouvé un peu du monde d'avant. Les anciennes habitudes n'ont pas mis longtemps à revenir. Les terrasses ont rouvert et ont retrouvé leurs clients. Souvenez-vous, la condition, c'était un protocole très strict avec gestes barrières et demi-jauge. Protocole vite oublié par endroit. Écoutez ce reportage à Paris de Yasmina Katou.
Ce brouhaha, c'est celui d'une terrasse bondée comme en été. Sur ce bout de trottoir, la vie d'avant a repris le dessus.
Nous, on a nos habitudes en famille sur cette terrasse.
Patrick est venu dîner avec ses 3 enfants.
On discute avec tous nos voisins de table, vraiment comme avant en fait. Aucune appréhension par rapport à un Covid, sachant qu'on l'a tous eu. On est tous tranquilles. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de monde en réanimation quand on est relativement jeune.
Pas d'inquiétude non plus. 20 cm plus loin, à la table d'à côté, un groupe de 7 amis s'est retrouvé collé entre eux et aux inconnus des tables autour.
Tant pis, on est plus de 6, mais... J'ai 21 ans, bah j'ai envie de profiter, donc voilà.
Au début on était très sérieux sur les gestes barrières, mais on va falloir recommencer à vivre là quand même. Commencer à être un peu plus laxiste sur les règles, c'est peut-être un début.
Le gérant du bar a effectivement lâché du lest.
La terrasse elle est pleine ce soir?
Oui, ce soir c'est plein, ouais.
Depuis la réouverture, le patron a sorti toutes ses tables, tant pis pour la jauge.
C'est très difficile de refuser aux gens qui ont été privés de terrasse pendant 7 mois de savoir qu'on a la place et de ne pas les installer.
Le gérant assure n'avoir eu aucun problème avec la police depuis la réouverture.
Un reportage de Yasmina Katou. Il est encore trop tôt pour en tirer les conséquences sanitaires, pour tirer des conséquences sur l'épidémie. Ce vendredi, les chiffres sont toujours en baisse avec 14 000 nouvelles contaminations dans les dernières 24 heures.
Les regards des autorités ces derniers jours sont tournés vers la Grande-Bretagne où le variant indien progresse rapidement.
Oui, Paris a décidé d'imposer une quarantaine dès lundi pour tous les voyageurs traversant la Manche. Ce variant progresse, mais en France, il est pour l'instant assez maîtrisé, Victor Delande.
Oui, avec une centaine de cas, il n'y a pas de diffusion massive en France de ce variant indien. Il s'agit de cas importés. En clair, ce sont des voyageurs qui revenaient d'Inde avec le virus. Il n'y a pas non plus de cluster de trop grande taille. Alors certes, ce variant est plus contagieux, probablement jusqu'à 50% plus transmissible que le variant britannique. En revanche, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il est plus dangereux. Et surtout, les vaccins resteraient efficaces selon Yannick Simonin, virologue à l'INSERM.
Il y a eu des articles qui ont été publiés récemment qui montrent que les vaccins ont encore une très forte efficacité contre le variant indien. Donc ça, c'est vraiment là-dessus qu'on a beaucoup d'espoir, c'est sur la vaccination. Ce qui est important de savoir, c'est que quand on parle de vaccination, c'est 2 doses.
Selon une récente étude anglaise, le vaccin Pfizer est efficace à 93% contre le variant britannique. Et contre le variant indien, la protection chute un peu, mais reste très élevée aux alentours de 80%.
Les précisions de Victor Delande pour Europe 1.
Dans le parcours du combattant qui est la recherche d'un logement, c'est une mesure d'équité. Depuis 2016, l'État se porte garant pour les Français les plus précaires.
C'est le principe de la garantie visale, celle qui sera étendue dès la semaine prochaine. C'est une information qu'Europe 1 vous révèle ce matin, Maud Descamps.
Jusqu'à présent, elle était réservée aux moins de 30 ans ou aux travailleurs précaires. La garantie visale, qui permet de faciliter l'accès à l'allocation en couvrant les loyers impayés sur une durée de 36 mois, va être accessible à tous les salariés, quel que soit leur âge ou leur contrat de travail. Il restera tout de même des conditions de ressources pour être éligible, gagner entre le SMIC et 1500 euros par mois. Une mesure nécessaire dans le contexte de crise actuelle, estime la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon.
Pour moi, ça va aussi avec l'appui à tous ceux qu'on a appelés les travailleurs essentiels, les travailleurs de la deuxième ligne. Ce sont des travailleurs dont les salaires sont parfois limités et ce sont ceux qui galèrent pour avoir accès au logement dans les grandes villes, ceux dont les dossiers sont un peu moins bien que les autres et du coup qui ne sont jamais retenus, ceux dont les dossiers sont toujours retoqués. C'est à ces salariés-là que je pense, en sortie de crise, pour leur permettre de se loger dans de meilleures conditions.
Depuis son lancement en 2016, 380 000 personnes ont pu bénéficier de ce dispositif. Avec son extension, ce sont désormais 6 millions de locataires qui sont éligibles.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Au chapitre judiciaire, 6 ans après l'accident d'hélicoptère sur le tournage de l'émission Dropped, la société de production a été condamnée en appel pour faute inexcusable.
Il est 5h35. Le ministère de l'Agriculture lance aujourd'hui le Varenne de l'eau.
Plusieurs journées de débats et d'ateliers pour relever le défi de la préservation de cette ressource qui est massivement utilisée notamment par les agriculteurs. L'une des solutions possibles, c'est l'agrivoltaïsme, produire de l'électricité tout en économisant de l'eau. Reportage dans les Pyrénées-Orientales de Benjamin Peter.
Il y
Il y a 40 ans, quand nous parlions de 30 ou 32 degrés, c'était des températures assez exceptionnelles. Et à l'heure actuelle, on est plutôt sur des 38-40.
La conséquence de ce changement climatique pour Pierre Escudier, c'est un degré d'alcool plus élevé du raisin et un rendement en baisse. Alors depuis 4 ans, ce viticulteur a fait installer au-dessus de 5 hectares de ses vignes des panneaux solaires qui produisent de l'électricité verte, mais pivotent plusieurs fois dans la journée pour agir comme des parasols.
Les panneaux vont donner à chaque rangée de vignes 4 ou 5 heures d'ombre par jour. Ça suffit à la vigne pour se relaxer et ne pas souffrir. L'eau est devenue une denrée très rare et très chère. Sous les panneaux, il y a déjà 25% d'évaporation en moindre. C'est énorme.
C'est Antoine Nogier, le fondateur de la société Sonagri, qui a eu cette idée, économiser l'eau grâce à l'ombre des panneaux solaires.
C'est comme une persienne, si vous voulez. C'est vraiment un pilotage intelligent pour laisser passer le soleil quand la plante a besoin de soleil. Et quand vous avez trop de soleil, cette persienne se ferme uniquement quand la plante se met à souffrir ou ne fait plus de photosynthèse.
Et c'est vertueux, puisque ces panneaux solaires ne remplacent pas de terres agricoles, mais sont au service de l'agriculteur. 10 centrales de ce type existent déjà, une trentaine sont en projet sur des vignes, des vergers ou des espaces maraîchers. À Tresserre, Benjamin Péter, Europe 1.
Au Congo, les autorités ne cachent pas la gravité de la situation. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été évacuées de la ville de Goma. Le volcan Nyiragongo, l'un des plus dangereux d'Afrique, est entré en éruption. Il pourrait déstabiliser la nappe de gaz qui se trouve sous le lac Kivu. Écoutez le témoignage de Gershom Debo, un photographe qui vit à Goma.
J'ai laissé tout derrière moi, ma maison, mes habits, mes documents. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais rentrer dans la ville pour les récupérer. Il y a des familles qui se sont séparées en cours de route, des enfants qui sont maintenant perdus. Les sentiments généraux, pour le moment, c'est l'incertitude. On ne sait pas comment on va dormir. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger. On ne sait pas ce qui va se passer à Goma. On ne sait pas quand est-ce qu'on va retourner dans la ville.
Le témoignage de cet habitant de Goma et puis toujours à l'étranger, l'Allemagne pour la première fois reconnaît avoir commis un génocide en Namibie pendant la colonisation. Berlin s'engage à verser plus d'un milliard d'euros d'aide au développement.
Enfin en football, une page se tourne au Real Madrid.
Après une saison blanche, Zidane a décidé de quitter le banc. Il n'entraînera pas les Madrilènes la saison prochaine. Et c'est déjà un petit drame pour les supporters. Reportage à Madrid de notre correspondant Henri de Laguéry.
Il a marqué à jamais l'histoire du plus grand club au monde, alors forcément son départ laisse les Madrilènes un peu orphelins. À quelques encablures du stade Santiago Bernabéu, Luis, le patron de la bodega El Tendido, un pincement au cœur à l'idée de voir son idole quitter le club.
C'est un jour très triste, parce qu'il a été une figure incontournable. Au-delà de ses succès, sa personnalité et son charisme laisseront une trace ici. Mais Madrid restera le Real Madrid et continuera de gagner.
Malgré la déception, les supporters veulent donc aller de l'avant. C'est aussi cela la philosophie du Real Madrid. Zidane s'en va après une dernière saison éprouvante. Le Français n'a pas toujours eu le soutien qu'il espérait de son club. Mais pour Sergio, avec 11 titres, il restera comme le plus grand entraîneur du Real.
Lui, c'est la légende, c'est le Real Madrid, c'est le dream. Je pense qu'il n'y a pas plus, il n'y a pas meilleur. C'est une personne qui sait comment gagner.
Et vous lui voyez quel avenir ?
Je pense que tous les Français vous attendiez qu'il y aille dans l'équipe nationale. Non ? Ça fera un très bon sélectionneur de l'équipe de France.
Mais pour cela, il faudra attendre que Didier Deschamps cède sa place. Et d'ici là, certains voient Zidane prendre une année sabbatique. D'autres l'annoncent en Italie. Madrid, Henri de Laguéry. Europe 1.
Et on retrouvera Henri de Laguéry en Espagne tout à l'heure pour la revue de presse internationale à 6h50. On verra ce que la presse espagnole dit de ce départ de Zinedine Zidane. C'était le journal de Marguerite Lefebvre. Il est 6h20 sur Europe 1. Et on retrouve Thierry Léger pour les pronostics du Quintet.
C'est sur l'hippodrome de Paris-Vincennes que se disputera ce Quintet, une course européenne d'un très bon niveau qui réunira 14 chevaux et non 15 comme initialement prévu. Le numéro 1, Éridan, ayant déclaré forfait. Idéalement placé en première ligne, derrière l'autostart, le mode de départ de ce quintet, Détroit Castellet, le numéro 6, sera mon préféré. Il reste sur deux excellentes deuxièmes places et sa régularité mériterait bien d'être enfin récompensée par une victoire qui lui fait défaut depuis plus d'un an et demi. L'opposition sera constituée des numéros 5, Éclat de gloire, lui aussi réprochable et nanti d'une position idéale derrière l'autostart, 3 Frisbee Dame, insaisissable, mais qui dépend de l'entraînement en très grande forme, celui de Richard Westerink, et 11 IDS Boko, qui nous arrive de Hollande après deux bonnes performances au Danemark. Enfin, les numéros 15, Violetto Jet, 7 Colonel, 10 Collet Crown et 13 Brillant Madric compléteront ma sélection. Mon pronostic, 6, 5, 3, 11, 15, 7, 10 et 13.
Thierry Léger, merci à vous. On retrouve tous vos pronostics sur europe1.fr.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 5h41, une police municipale pour Paris. C'est une petite révolution dans la capitale. Elle va voir le jour, cette police municipale, au mois de septembre. Elle est permise par la loi sur la sécurité globale qui vient d'être définitivement adoptée. Nous en parlons ce matin avec mon premier invité. Bonjour Mathieu Zagrodzki.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans le 5-7. Vous êtes spécialiste des politiques de sécurité et de la police, chercheur associé au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Une police municipale à Paris, pourquoi il n'en était pas question jusque-là pendant toutes ces années ?
Pourquoi il n'en était pas question ? Tout simplement parce que c'est un statut qui remonte à l'époque napoléonienne, hein, où en quelque sorte le monopole de la police à Paris, il est exercé par la préfecture de police et donc par l'État, pour être tout à fait clair. Et c'est vrai que cette législation est peu à peu tombée en désuétude. C'est vrai que toutes les grandes villes de France ont aujourd'hui une police municipale et c'était une revendication de plus en plus forte que la capitale puisse en être dotée aussi, vu que c'est la plus grande ville de France.
Quelles vont être les missions de ces agents municipaux ?
Ce qui est affiché, mis en avant par Anne Hidalgo et donc la municipalité parisienne, c'est d'aller plutôt sur des problématiques d'incivilité, de nuisance quotidienne, de stationnement, de prévention, de présence de proximité. C'est vrai que la police nationale a de moins en moins le temps de mener ce genre de mission. Elle a de moins en moins la possibilité, ou du moins peut-être la volonté, de circuler à pied et d'être un peu dans une démarche de contact direct avec la population. C'est un peu ce que cette police municipale va venir faire dans les rues parisiennes.
Ça peut vraiment changer les choses en matière de prévention de ces incivilités, par exemple sur la propreté aussi. Ça peut vraiment faire une différence ?
Disons que les moyens qui vont être mis, puisque l'objectif à terme est d'avoir 5000 personnes, plus vous avez de personnes sur la voie publique qui sont en mesure de réprimer ce genre d'actes, plus vous avez, on va dire, une chance d'y parvenir. Alors après, le problème est très étendu à Paris. On peut pas non plus espérer que du jour au lendemain, une police municipale fasse des miracles et rende Paris tout d'un coup parfaitement propre avec des gens qui respectent les règles. Mais c'est un outil supplémentaire qui est sans doute pas négligeable.
5000 agents, c'est l'objectif, et des agents qui n'auront pas de bureau, il n'y aura pas de centre, ils seront systématiquement sur le terrain. Et c'est ça a son importance. Ça vous semble suffisant ?
C'est un peu leur raison d'être, et il faut dire une chose, c'est que les charges administratives, et notamment judiciaires, qui pèsent sur la police nationale, la gendarmerie nationale, ne pèsent pas sur la police municipale, parce que la police municipale n'a pas de travail judiciaire qui nécessite une présence dans les bureaux, d'où cette possibilité en fait de déployer un maximum de personnes sur la voie publique.
Avec donc ces missions de sécurisation, de sanctions, de prévention. Sauf que ces agents ne seront pas armés, et on se souvient que c'est un débat qui a été vif, notamment lors de la campagne des municipales l'année dernière, et la maire de Paris, Anne Hidalgo, refuse que ces policiers municipaux soient armés. Est-ce que ça a du sens, selon vous ?
Disons que c'est un choix politique. Globalement, à l'échelle nationale, la répartition entre les policiers municipaux armés et les policiers non armés, elle est de 50-50 en fait. Vous avez des mairies, et Nice en est l'exemple le plus patent, qui ont fait le choix de police municipale qui sont plutôt dans l'intervention et dans la lutte contre la délinquance, dans un rôle qui est quasiment supplétif de la police nationale. Et donc, on a fait le choix de les armer, et les armer avec des pistolets dernière génération. D'autres polices municipales, je pense à celle de Nantes, sont plus justement dans une démarche de prévention et de contact. Et donc, cette police-là, comme d'autres, n'est pas armée. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu un choix d'orientation, c'est un peu un choix philosophique. Alors après, vous savez, les agents ne sont pas forcément tous toujours en faveur du port d'armes létales, parce que ça engendre aussi des responsabilités assez importantes.
Mais est-ce que ça ne les met pas en danger dans le contexte de menaces terrorisme que l'on connaît. Est-ce que ça n'en fait pas des cibles ?
Alors, ouais, j'allais venir. Ça c'est le dernier argument qui est avancé en faveur de l'armement. Donc, en dehors des questions de doctrine de la police municipale, est-ce que l'arme, elle est nécessaire dans la réalisation des tâches quotidiennes ? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de se protéger face à une attaque terroriste, sachant que les terroristes potentiels ne vont pas forcément faire la différence entre un policier municipal ou un policier national ? Ça a d'ailleurs été le cas à Montrouge en 2015, il ne faut pas l'oublier. Donc oui, c'est un argument pour, mais apparemment, pour la mairie de Paris, c'était pas un argument suffisant pour contrebalancer les arguments en faveur d'une police non porteuse d'armes à feu.
Et pourtant, les problèmes d'insécurité sont assez lourds à Paris, et vous le disiez, on parle souvent de la situation, par exemple, à Stalingrad, avec la drogue, le crack, les incivilités, les violences. Est-ce que ces agents ne vont pas se retrouver complètement démunis, finalement, face à ces phénomènes de violence ?
Alors, ça dépend ce que ces policiers vont avoir à gérer. En principe, une police municipale, et à plus forte raison dans l'optique qui est celle choisie par Anne Hidalgo, n'a pas à gérer des trafics de drogue, des rixes et le genre d'incidents que vous venez d'énumérer.
Ce sont parfois de petites incivilités, mais dans un quartier, mais liées à la drogue, donc liées à des sujets lourds.
Tout à fait. Alors vous pouvez avoir ce genre de problématique, c'est que vous avez des incivilités, mais qui sont commises par des personnes qui sont soit vendeuses, soit consommatrices de stupéfiants. C'est vrai que dans ces cas-là, je pense qu'on fera appel, entre guillemets, au bon sens et puis au discernement de ces agents qui n'iront peut-être pas au-devant de situations qui considéreront comme trop risquées et feront, le cas échéant, appel à des renforts de la police nationale, puisqu'il y aura certainement cette possibilité.
Comment vont-ils être formés et recrutés ?
C'est une question qui est importante et épineuse, parce qu'il y a déjà des agents de la ville de Paris qui sont chargés de la sécurité. Ça s'appelle les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris. Donc ces gens-là vont être entre guillemets reconvertis, et d'ailleurs la ville a annoncé la création de sa propre école de la police municipale. Et puis à côté de ça, vous aurez des recrutements, vous aurez des nouveaux policiers municipaux qui vont être recrutés. Bon, les policiers municipaux en France, la formation en fait elle est unique, elle est unifiée, elle est standardisée. C'est une formation de 6 mois qui est dispensée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale.
3000 agents dans un premier temps et jusqu'à 5000, c'est l'objectif pour 2024, l'objectif affiché par la ville de Paris. Merci beaucoup pour ces précisions, Mathieu Zagrowski. Je rappelle que vous êtes spécialiste des politiques de sécurité et chercheur au CESDIP. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Europe 1.
Il est 5h48 sur Europe 1 et nous continuons de parcourir la France à la recherche des belles initiatives et des initiatives positives. Julien Froment, où est-ce qu'on va ce matin ?
Direction la Gironde pour évoquer les crèches itinérantes et solidaires.
A tout de suite sur Europe 1 pour La France Bouge.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 6h10 sur Europe 1. La France va progressivement sortir de l'état d'urgence sanitaire. Après les députés, ce sont les sénateurs qui ont validé le projet de loi. Il prévoit la mise en place du pass sanitaire qui sera exigé avant certains rassemblements ou certains voyages. Bruxelles attendait les deux derniers feux verts. L'Autriche et la Pologne ont ratifié hier le plan de relance. Les premiers chèques vont donc pouvoir être débloqués. Enfin, en tennis, tirage au sort compliqué pour les Français. Roland-Garros. Il y aura notamment un duel tricolore. Dès le premier tour, Richard Gasquet contre Hugo Gaston. Le vainqueur pourrait affronter Raphaël Nadal dans la foulée. Ça va pas être simple.
Écoutez le monde changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
C'est l'heure de La France Bouge avec vous, Julien Froment. Et nous allons donc en Gironde où deux puéricultrices ont créé des crèche itinérante et solidaire.
Effectivement, trouver une place en crèche, c'est souvent le parcours du combattant pour les parents. Et quand on trouve une place, des fois, les conditions ne sont pas à la hauteur des attentes. C'est le constat de Magali Moreau et Clémentine Graff, deux puéricultrices qui ont lancé 1, 2, 3 pouces, c'est-à-dire dans l'édition d'aujourd'hui de Sud-Ouest. Et l'idée est simple et double, créer un réseau de crèches sociales solidaires et une halte-garderie itinérante, un modèle encore inexistant en Gironde. Alors concrètement, dans chaque crèche, un système de berceaux suspendus est mis en place. Alors comme une sorte de café suspendu qu'on peut voir, vous savez, dans certains bars, vous payez pour deux cafés et cela profite à quelqu'un qui n'a pas les moyens de se le payer. Et bien là, c'est le même principe, une place en crèche est financée, des familles dans le besoin sont alors mises en contact via les intervenants sociaux et institutionnels pour en bénéficier. Ça c'est pour les crèches solidaires. Et puis le deuxième volet, les haltes-garderies itinérantes. Là, l'idée c'est qu'un bus circule dans des zones blanches en matière de crèche, dans des communes rurales ou des quartiers en manque de structure. Un camion agréé par la PMI, la protection maternelle et infantile, stationné fonctionne à côté d'une salle municipale. À l'intérieur, 6 couchettes, une salle de change. Le but, annonce Magali Moreau, faciliter l'insertion professionnelle des familles éloignées des modes de garderie traditionnels. Alors, ce projet est en cours de finalisation et devrait sillonner très prochainement le département de la Gironde. D'abord rive gauche, puis rive droite, si le succès est au rendez-vous.
Il y a des zones où c'est difficile de faire garder ses enfants, ce qui peut rendre compliqué effectivement de trouver un travail. La France bouge donc avec ses crèches solidaires et itinérantes dans le département de la Gironde. Merci à vous, Julien Froment. 5h52, on va regarder ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, Martin Lange.
Oui, ce matin, Sébastien, je vous parle de l'épisode spécial de la série Friends, hein, Friends The Réunion, les retrouvailles des 6 amis 17 ans après l'arrêt de la série.
C'est très attendu.
Alors les fans l'attendaient avec impatience, hein, vous le premier Sébastien. L'épisode est désormais disponible depuis hier sur les plateformes HBO Max et Salto, hein, et les réactions n'ont pas tardé sur les réseaux. Dans leur très grande majorité, hein, les fans sont fans. Nao par exemple a passé 1h30 de pur bonheur. Elle a pleuré, ri, c'était comme retrouver sa famille, hein. Fabien est d'accord, hein, pour lui aussi cet épisode fait remonter plein de souvenirs, des retrouvailles émouvantes, drôles, un bel hommage, conclut-il. Ils sont beaucoup à avoir eu cette petite poussière dans l'œil en retrouvant leur personnage préféré comme le père Sam, hein, qui n'a pas de doute, c'est bien la meilleure série du monde. Il faut dire que les fans ont été gâtés avec des surprises à gogo, des images inédites, des invités stars comme Lady Gaga qui a repris la chanson culte de Phoebe, Tupule Chat. Smelly cat, smelly cat,
what do they feel you? C'est autre chose que la version originale.
Smelly Cat en VO, hein, donc. Il y a aussi eu des révélations, hein. Je ne sais pas si je vous divulgage, Sébastien, mais Ross et Rachel se sont aimés dans la vraie vie. Une scène, hein, qui a fait éclater en sanglots cet internaute. Je ne vais pas m'en remettre, écrit-elle.
Bon, donc, plébiscité visiblement par les fans de Friends, ce gros coup de la plateforme HBO. Il y a quand même des déçus sur les réseaux?
Oui, quelques-uns, hein, ils se comptent sur les doigts de la main. Comme Hannibal, hein, qui regrette le format de cet épisode, ce show avec ses interviews face caméra, on est loin d'un vrai épisode, lui c'est ce qu'il aurait voulu, hein. Mais on le rappelle, hein, tout ça a été prévu de longue date. Autre critique, le physique des personnages, et oui, hein, ils ont changé, ils ont pris un petit coup de vieux, certains ont même abusé de la chirurgie esthétique, c'est ce que déplore Tony. Le Botox, c'est pas possible, là, la meilleure réponse à ça, hein, c'est sûrement celle de Mayura. Vous critiquez beaucoup les physiques, mais j'aimerais bien voir vos gueules dans 20 ans.
Oui, c'est ça, même 25 ans après, c'est normal, en même temps, eux, ils sont pas si mal, franchement. Martin Lange, merci. Les réseaux sociaux chaque matin à 5h54. L'histoire du jour de Christophe Ondelat, c'est le destin tragique de Foufou en 1903 à Aix-les-Bains, une station thermale à la mode. Cette station est le théâtre de l'assassinat de la demi-mondaine Eugénie Fougère, alias Foufou. Le récit Ondelat raconte à 14h sur Europe 1 et dès maintenant en podcast sur europe1.fr.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Notre planète, des solutions positives chaque matin avec vous, et vous nous parlez ce matin d'un béton végétal, un béton végétal qui pourrait supplanter les matériaux traditionnels.
C'est une réalité. De plus en plus de constructeurs font tourner leur bétonnière au chanvre. Car cette plante, qui est une espèce de cannabis, a un énorme potentiel pour décarboner l'industrie du bâtiment. Je m'explique. Ce secteur représente 26% des émissions nationales de carbone. Et pour cause, la fabrication du béton et du ciment est très énergivore et le traitement des déchets générés représente les trois quarts des déchets du pays en volume. Alors qu'avec le chanvre, on fourre dans la bétonnière un mélange de chaux et de chénévol. Il s'agit de copeaux de chanvre réalisés avec la tige de la plante qui est séchée puis broyée. C'est tout. Imaginez un peu, demain nos villes pourraient être construites non plus en béton traditionnel mais en chanvre, qui est d'ailleurs un bon isolant thermique, ce qui permet de réduire les dépenses énergétiques en climatisation et en chauffage.
Bon, ça veut dire que ce recours au chanvre pourrait ouvrir une nouvelle voie pour les agriculteurs aussi?
Oui, avec à la clé de nombreux bénéfices, car en poussant, le chanvre a la capacité de séquestrer beaucoup de carbone dans les sols pour la lutte contre le changement climatique. Ce serait une excellente nouvelle que l'industrie de la construction table sur ce type de culture. D'autre part, cultiver du chanvre est aussi un atout pour les agriculteurs français, car il pousse merveilleusement bien ici, sous nos latitudes, et ne nécessite ni irrigation ni pesticides. C'est une plante idéale pour préparer les sols, car les racines profondes du chanvre vont fractionner la terre, ce qui permettra ensuite de faire de la rotation de culture dédiée à notre alimentation.
Bon, qu'est-ce qui freine alors l'utilisation de ce matériau de construction ?
Alors, la fabrication de béton de chanvre reste pour le moment plus coûteuse que celle du béton classique. Mais à terme, la demande d'incorporer l'empreinte carbone d'un produit dans son prix changera la donne. Le CEREMA, Centre d'études sur l'environnement et l'aménagement, cherche donc à diversifier les usages des matériaux biosourcés, c'est-à-dire d'origine naturelle. Le béton de chanvre est une des options les plus prometteuses, car presque toutes ses parties sont utiles. Les graines sont comestibles et riches en protéines, la majorité des fibres sont utilisées comme isolant ou textile, et les fleurs peuvent être vendues dans le marché émergent du CDB, la molécule non psychotrope du cannabis.
Voilà, le chanvre pour fabriquer du sorte de béton végétal, nouveau matériau de construction, la solution du jour avec Fanny Agostini. Merci Fanny, à lundi.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs. Écoutez le monde changer.
Bienvenue à vous tous sur Europe 1 si vous nous rejoignez au réveil en ce vendredi matin, vendredi 28 mai. Il est presque 6h, la semaine se termine et on va voir avec Laurent Cabrol dans un instant que ce week-end s'annonce particulièrement chaud et ensoleillé. Voilà qui doit vous donner le sourire pour démarrer la journée. Le 5-7 continue. Je ne sais pas si vous avez vu hier à la télévision cette série particulièrement glaçante, Tchernobyl, qui raconte l'accident nucléaire de 1986. Bien, ce matin, c'est l'actualité qui nous rattrape. 35 ans après, que se passe-t-il dans les décombres du réacteur numéro 4? Une activité anormale a été détectée. Des réactions de fission qui continue sous la chape de béton qui recouvre totalement la centrale. Alors, on ne va pas vous paniquer ce matin, on va simplement prendre le temps de bien comprendre ce qui se passe avec le directeur adjoint de l'IRSN, mon invité à 6h40, Jean-Christophe Gariel. D'ici 7h, tous vos rendez-vous et de la musique, bien sûr. C'est l'un des albums préférés des fans de Mylène Farmer. Le mystérieux Inamoramento, Omblin Roche nous raconte cet album dans la partition. C'est dans 20 minutes sur Europe 1. Je ne sais pas si vous êtes fan de Mylène Farmer, Laurent Cabrol.
Vous savez ce qu'il me dit le réalisateur, notre ami Fabrice Lafitte. Il me dit, et là, voici la vilaine fermière. il est sympa lui.
Jeu de mots.
Bon, jeu de mots. Vous voyez que, on rigole en même temps. On est plein de bonne humeur en ce moment. On a vraiment envie de rigoler, de se marrer. Pourquoi? Parce qu'il fait beau, il va faire beau. Ce sera une belle journée. Ce sera une journée très agréable. Alors, c'est pas un ciel limpide que nous aurons. Hein. Nous aurons simplement quelques passages nuageux, quelques voiles. Enfin, un voile. Faut pas avoir peur des mots. Un voile qui sera un peu plus épais qu'ailleurs sur certaines régions comme l'Aquitaine, les Charentes, la Basse-Normandie et la Bretagne. Un voile très léger sur le Poitou, le Limousin, le Midi-Pyrénées, le Languedoc-Roussillon. Mais enfin, c'est vraiment pour dire quelque chose. Les températures ce matin, 7 à Besançon, 8 à Lille, 10 à Bourges, 11 à Nantes, 12, 13 degrés même à Paris, 14 à Bordeaux, 16 à Perpignan actuellement et dans la journée, 22 dans la capitale, 22 à Nice aussi en raison des vents marins, 23 à Marseille, vous voyez que la Méditerranée est un peu fraîche, 25 à Lyon et nous atteindrons 27 à Toulouse et Bordeaux, 28 à Avignon et 29 dans les Landes et dans la région de Cahors. Vous voyez que nous sommes vraiment dans un temps d'été dans toute sa dimension. Vous verrez aussi qu'il y aura quelques petits aléas dans les jours qui viennent, mais que ce type de temps va durer.
Voilà, les places seront chères en terrasse, visiblement. Laurent Cabrol, merci à vous. À tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Tout de suite, votre journal sur Europe 1. Bonjour Lénaïque Monnier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 6h.